Ben oui, deux équipes qui font face à l'élimination ce soir. C'est le cas des Bruins qui vont peut-être mourir à Buffalo. Le match débute à 19h30. 20h, c'est Minnesota et Dallas. La série est égale 2-2. Et est-ce que les Ducks d'Anaheim vont réussir à se débarrasser ce soir des Oilers et de Connor McDavid? Le match est à 22h. Les Ducks mènent la série 3-1.
Je peux croire que les Oilers soient déjà rendus à la pente descendante.
Ben là,
alors qu'on espérait tellement qu'ils gagnent, ils se rendaient tellement loin.
Ouais, ben faut pas les mettre morts tout de suite.
Regarde ce qui est en train d'arriver avec les Penguins de Pittsburgh face aux Flyers. Les Penguins sont encore en vie.
Oui, mais les Penguins, les runs, ils ont fait au complet. Les Oilers, aux dernières nouvelles, ils ont pas mal choqué le bout de la run.
Ben, ils l'ont fait au complet, sauf le dernier match.
Ben, c'est ça.
Mais c'est pas grave. mais je comprends ton point parce que ils ont compris c'était quoi leur point faible. Puis, ils ont vraiment trouvé des bons goalers depuis ce temps-là. C'est hallucinant.
J'arrêtais pas de penser à ça hier en regardant le match des Pingouins. Puis, je comprends que c'était pas le moins bon goaler qui était là. Mais je me suis dit, crime, ces deux équipes-là sont en première ronde. Ils en arrachent. Puis, quand ça a été le temps de faire des moves de goalers, ils se sont dit, « Hey, on va échanger nos pas bons. Ça va être super. Ça va nous aider. »
Puis, les Oilers se sont débarrassés d'un pas très bon pour avoir un méchant pas bon.
Ouais.
C'était comme ça le move. Puis, ils ont donné plus de choses pour... En tout cas, c'était présentement, là, c'était changé a très mal vieilli.
Denis, t'es passé vite sur les Bruins?
Ben, j'avais pas grand-chose d'autre à dire. Pour être bien honnête, là, quand c'est rendu que le goaler engueule les coéquipiers devant tout le monde, Ronald Corée aurait été en arrière du banc, puis probablement que Swayman aurait demandé un « trade me right fucking now », comme on dit dans le monde du hockey. Il y a de la circulation pas mal, Mathias, avant de jaser avec Monsieur Leblond.
Oui, juste vous dire, si vous êtes sur Capitale en direction ouest, direction est en ce moment, ça va pas aller en s'améliorant. Là. C'est difficile parce qu'il y a un accident à hauteur de Pierre Bertrand, la voie de gauche et la voie du centre qui est présentement bloquée. Les services d'urgence qui sont sur place, mais présentement, là, c'est du pare-choc à pare-choc jusqu'à Capitale environ, je vous dirais. Donc, armez-vous de patience. Également, Capitale direction ouest. Il y a de ça quelques instants, on avait un accident sur Première Avenue. Ça, c'est réglé, ça circule bien, mais entre-temps, il y a eu le temps d'avoir un autre incident. Ce serait dans le secteur de Pierre-Bertrand également. Si vous avez plus de détails, n'hésitez pas au 418-971-1021. Juste vous dire, Robert Bourassa, direction nord, pour accéder à la capitale, c'est excessivement difficile. Ça remonte jusqu'à Charest actuellement, en raison, bien sûr, des incidents sur Pierre-Bertrand. Et je termine avec l'accès au pont. Henri IV, présentement, c'est toujours jusqu'à Charest, le ralentissement. Et pour Duplessis, peu à peu, ça va en s'améliorant. Là, on remonte jusqu'à Quatre-Bourgeois.
Thank you!
Hey, kids! Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Leblond.
Il était présent au Centre Bell vendredi soir. Il a dû vivre de belles émotions. Notre planificateur financier, Alex Leblond. Salut, Alex.
Salut, vous autres.
Comment t'as vécu ça? Ça avait l'air complètement débile à la TV. J'imagine que sur place, le sol devait shaker en dessous de vous autres.
Ben, j'étais loin du sol. Fait que j'ai pas, j'avais acheté mes billets vite, là. J'avais cherché le moins cher, mais j'avais pas réalisé que j'étais littéralement dans la dernière rangée en haut.
Oh! OK, quand je t'ai dit que t'es dans le début des dans la fin des 300, tu m'as dit non, je suis au début des 300.
Ben, je pense ça.
T'étais à côté sur le mur avec les légendes.
Ben, tu sais, l'espèce de serviette. Là.
Ils oui. sont-ils rendus à toi?
Ben oui, mais je pouvais pas la lever trop haut parce que je pognais le truc de ventilation. Fait que j'étais haut, mais il n'y a pas de mauvais siège au Centre Bell.
C'est vrai.
Tu vois, j'avais un super bon angle là, quand Hudson a scoré le but en prolongation. J'étais exactement là, dans le coin. Là. Fait que...
Hey, ça devait être fou pareil. Hein?
Ben, écoute, je sais pas si c'est le placement des caisses de son, là, mais tu sais, quand les joueurs sont entrés sur la glace au début, là, la tune de Coldplay, j'étais comme, pourquoi ils ne jouent pas? Puis là, j'ai réalisé à la fin
qui a joué.
Que je l'entendais juste pas.
La foule l'enterrait tout.
La foule enterrait tout.
C'est-tu la foule la plus bruyante que t'as entendue, toutes catégories confondues? Parce que, tu sais, t'as vu une coupe de show.
Oui, mais en fait, bruyante, oui. Puis, tu sais, vu que j'étais là où le son s'arrête, c'était probablement plus bruyante. Non, c'est vrai parce que le son, il s'en va rebondir en haut. Là. Mais c'est drôle parce que l'an passé, j'étais allé voir un match de soccer en Argentine.
Crème, ça doit être débile aussi. Là.
Ben, ils sont comme réputés pour pas se la fermer pendant une traître seconde. Puis pour vrai, ça s'approchait un peu.
C'est un centre bel argentin.
Le monde, ce sont pas. Tu sais, il y a peu beaucoup de temps mort. Là. Soit c'était. il criait pour le Canadien, soit c'était il criait après les arbitres, ou c'était Kucherov, ou il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. Là. Puis surtout, là où j'étais, ben souvent, c'est les billets les moins chers, entre gros guillemets, fait que c'est les vrais fans qui se ramassent là.
Les plus tapageurs, les
billets corpo. Ils
sont pas là à toutes les deux games, eux autres.
Non, exactement. Fait que pour vrai, j'ai vraiment aimé l'expérience, puis une foule, c'est drôle, hein, parce qu'il n'y a aucune... Tu sais, à un moment donné, il y a un gars du Canadien, je pense que c'est Anderson, il a pogné un 2 minutes pour bâton élevé, puis tu sais, il monte à l'écran géant.
Oui,
le bâton de Anderson, de la face du gars, puis tu sais, il y a un lien, ça s'en va là. La reprise pourrait pas être plus claire, là. Il sac son bâton en face, là. J'en vois ça, on se dit comme, ben voyons donc! Ouais, c'est ça! On voit ça la même affaire, là?
Ah, ça passe leur temps à huer les arbitres, là. Ah, c'est fou, ouais.
Ben, c'est pas, c'est pas.
Dans les rues après, as-tu le temps de regarder ça un peu? Ou...
Ouais, la rue, c'était quand même assez incroyable, là. Mais, tu sais, j'ai pas.
T'as pas participé aux festivités?
Non. Je retournais chez nous après, là. Mais pour vrai, là, l'ambiance autant avant, parce que moi j'ai rôdé un peu aux alentours du Centre Bell avant, puis ça justement les gens qui sont à l'extérieur du Centre Bell sont encore plus crinqués que les gens qui sont en dedans, fait que ça c'était vraiment assez incroyable. Belle expérience, j'ai aimé ça.
Il y en a qui vont vivre sensiblement la même chose pour le match numéro 6 vendredi, puis ça c'est sûr qu'il y en a un.
Oui, puis on a des collègues qui risquent d'y assister.
Ben oui, match numéro 5 demain soir du côté de Tampa. En fin de semaine, beaucoup d'articles dans le Journal de Québec, Alex Leblond, sur la retraite, toutes catégories confondues, puis il n'y avait pas grand-chose de réjouissant là-dedans pour notre génération puis la génération qui s'en vient. Là.
Ah, puis même la génération actuelle, c'est intéressant parce qu'il faisait à la fois un portrait des retraités actuels et de ceux qui s'enlignent vers là, dans les 5, 10, 15 prochaines années. Ça a commencé vendredi passé dans les médias de Québécois, samedi, dimanche, lundi, puis il y avait encore des articles là-dessus aujourd'hui. Là. Fait qu'on s'entend, c'est un gros dossier sur plusieurs angles.
Ouais,
assez exhaustif. C'est intéressant parce que le portrait est, somme toute, alarmiste, là, mais quand même réel. T'sais, parce que le revenu des retraités au Québec, en moyenne, n'est pas super élevé. La majorité des gens, quand tu regardes les sondages, là, sont très inquiets de manquer d'argent à la retraite. Fait que je trouve ça intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a un paquet d'angles là-dedans qu'on peut aller explorer. Puis certaines choses qui étaient vraies dans les reportages, certaines qui peut-être manquaient un peu de nuances.
Il y a des choses qu'on a jasées aussi au fil des chroniques un petit peu là-dedans. Là. Je pense au premier aspect que tu veux jaser avec nous autres. Les rentes publiques à la retraite, c'est suffisant pour vivre décemment à la retraite? Il y en a plusieurs qui vont dire non. Là.
Ouais. Ben, puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, là, c'est que les gens, surtout les... Puis ça s'adresse aux gens de 40, de 50, de 55 ans, sont pas vraiment conscients de c'est quoi le contrat social qu'on a au Québec. Parce que, tu sais, c'est toujours relatif. Là, si tu compares nos rentes publiques, mettons, à la retraite, tu as la RRQ au Québec puis tu as la pension de vieillesse au fédéral. Tu as ces deux montants-là. La majorité des retraités au Québec actuellement là, ne vivent que de ça. Le revenu moyen du retraité, le revenu médian des retraités au Québec, c'est-à-dire que la moitié sont en haut, la moitié sont en bas, c'est 31 000.
Ça n'a pas de bon sens?
C'est très faible.
Oui.
Parce que les gens n'ont pas d'épargne, ils ne vivent que des rentes publiques. Il y a des gens, puis ça j'en vois des fois dans mon bureau, qui pensent que le gouvernement va financer, va remplacer 60-70 % de leurs revenus à la retraite. C'est pas ça pantoute le deal.
C'est pas ça le deal.
La RRQ, si tu prends le programme au provincial, là, le but de ça, là, c'est à terme d'aller remplacer un maximum de 33 % de ton revenu. Avant, c'était 25, on l'a augmenté à 33 justement parce que on a un petit problème d'épargne au Québec. Là. Fait que ça, c'est provincial.
Oui.
Puis au fédéral, la PSV présentement, là, à laquelle on ne cotise pas, mais qu'on paye avec nos impôts fédérales, le montant maximal de ça, c'est 743$ par mois. Fait que le deal qu'on a avec les gouvernements, là, c'est clair comme de l'eau, là, c'est le gouvernement te garantit qu'à la retraite, tu ne seras pas dans la rue.
Mais ça, au prix des loyers, t'es plus mis d'être dans la rue à ce montant-là.
Ouais, mais ça dépend tout le temps où. Là. Ah, si t'es à Montréal versus Sept-Îles, c'est pas pareil.
C'est
là. Mais tu sais, le deal qu'on fait avec le gouvernement, c'est que lui, tu sais, on n'a pas de pénurie d'itinérance de retraités au Québec. Fait que le gouvernement nous dit, hey, on vous loge, on vous nourrit. Si vous, ce à quoi vous aspirez, c'est être confortable à la retraite...
Ça prend d'autres choses.
C'est pas dans le deal, ça.
Ouais,
c'est pas le gouvernement qui va l'offrir. C'est soit un régime de retraite d'employeur, soit vos placements perso. Faut bien le comprendre.
Je suis content parce que quand on est revenu de la fin de semaine, on a eu une discussion dans le pit stop avec Marceau sur tous les textes qu'on avait vus. Puis la question que tu veux aborder, on se l'est posé directement. Considérant le fait que les Québécois ne sont pas en bonne situation à la retraite, est-ce qu'on devrait les forcer à épargner pour leur retraite? Parce que les notions d'économie qu'on a sont pas super. Puis il y en a plusieurs qui, à partir de 30-35 ans, ils n'ont pas une scène de ramasser. Passé 40 ans, il y en a qui n'ont pas d'argent de ramasser encore. Ce qu'il faut faire, c'est-tu rendu le devoir de l'État de dire « on va vous forcer à épargner »?
Bien, il y a des pays qui le font. Puis ils ont toutes des manières de le faire différentes. Là, le Chili, la Suède, le Pays-Bas, Royaume-Uni, un peu, peut-être un peu moins que ces pays-là. Mais c'est tous des pays où t'as pas le choix. Là.
C'est quoi? Ils retirent obligé sur ta paye un certain montant, puis ils te redonnent ça à ta retraite?
Oui, exactement. Il y a différentes variables de ça. T'sais, nous, on a une variable de ça, qui est justement régime des rentes du Québec.
Oui.
T'sais, la RRQ, là, si vous cotisez au maximal, là, au maximum, là, cette année, là, c'est 4 895 $. Essentiellement que le gouvernement vous prend dans vos poches et dit « Hey, cet argent-là, je te le redonne plus tard. » C'est intéressant de se poser la question « Hey, si le 4 895 $ qui était dans vos poches, est-ce qu'il serait épargné? »
Non.
Ou il...
Non, il serait dépensé.
Il serait dépensé. Tu vois, on en a une forme d'épargne forcée. Mm-hmm. C'est un faible pourcentage versus ce qu'on voit dans d'autres juridictions dans le monde. Mais il y a comme un aspect là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011... on parlait de baisse d'impôts pas mal quand c'était Raymond Bachand, le ministre des Finances. Dans Puis Amir Kadza s'était fait critiquer parce qu'il disait « Ah, ça sert à rien les baisses d'impôts parce que le monde et nous, ce qu'ils vont faire, c'est s'acheter des écrans plasma avec ça. » Il avait été critiqué parce que les gens disaient « Hey, ben, laisse-moi faire ce que je veux avec
mon argent. » On fera bien ce qu'on veut, mais sur le fond, il n'y avait pas tort.
Ben, sur le fond, il n'y avait pas totalement tort. Rendu là, on peut avoir des différences de vision là-dessus, on s'entend, là. Mais ça reste que la RRQ, c'en est un bon exemple. Avant que ça existe, les gens, ils ne mettaient pas de côté cet argent-là. Puis demain matin, on sait pertinemment que si on dit aux gens « Hey, on vous oblige plus de mettre de l'argent de côté dans le régime des rentes du Québec », ils ne mettront pas de côté. Fait que ce qui est intéressant, mettons, un régime d'employeur, tu sais, les employés de la fonction publique, là, ben, eux autres, ils en ont une forme d'épargne forcée.
Ben, c'était un texte très intéressant dans la série de textes d'en fin de semaine où tu comparais à revenu égal, fonction égale, quelqu'un qui travaille pour l'État versus quelqu'un qui travaille pour le privé, puis à leur retraite, ils ne sont pas pantoute dans la même situation. Là.
Vraiment pas dans la même situation. Par contre, des fois, on pense que, puis c'est comme un peu dans le discours public, là, on agit puis on parle comme si le fonds de pension des employés de l'État, il tombait du ciel. Comme s'il leur était donné.
C'était de l'argent de plus.
Oui, il y a une garantie, il y a une contribution de l'employeur. Par contre, moi, j'en vois là, des talons de paye d'employés de l'État que des fois, c'est 16, 17, 18 000 $ par année qui sort de la paye du client de l'employé dans ce cas-ci, là, puis qui s'en va dans son fonds de pension. La personne qui est au privé, mettons, qui a sa retraite totalement à sa charge, bien, le 16-17 000, ça va dans son compte chèque.
Il l'a eu.
Ça devient sa responsabilité à elle d'aller le mettre de côté. Si elle le met de côté, elle prend un petit peu de risque dans ses placements. Ça se peut très bien qu'à terme, elle se ramasse avec la même retraite que l'autre. Là. C'est juste qu'il y en a un que ça se fait automatiquement, puis l'autre qu'il faut qu'il le fasse lui-même.
Mais on ne sait pas ce qu'on veut, pareil, Alex, hein, parce qu'on veut de plus en plus d'indépendance par rapport au gouvernement, puis utilisateur-payeur, puis ainsi de suite. Mais si on avait cette liberté-là à 100%, bien, la plupart d'entre nous, on ne serait pas plus avantagés à la retraite parce que probablement que l'argent nous brûlerait dans les mains, là.
Possiblement.
Moi, le premier, en passant, je fais pas la leçon au monde.
Non, non, on veut un minimum d'intervention, mais on veut s'assurer qu'à la retraite, par contre, le gouvernement soit là pour nous aider, on dirait.
C'est pas pour rien que j'ai un planificateur financier, Alex. Là. C'est parce que si je fais pas de quoi avec mon argent, je vais le dépenser à mesure.
Oui, c'est ça. Je veux dire, tout le monde est dans le même bateau. Justement, le but, c'est pas de se placer au-dessus
de
la mêlée.
Non, non, non.
Par rapport au régime de retraite, tu sais, avant, là, on en avait beaucoup. Au Québec, on était un peu les champions des régimes de retraite. Là. C'est le cas classique de Gérard, il rentre à l'usine à 20 ans, il cotise à son régime de retraite, puis à l'usine, il dit « Regarde, ça va bien nos affaires, à ta retraite, tu vas avoir ce montant-là garanti. » Puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces régimes-là, ils coûtent cher en tabarnouche. Tu sais, un régime à prestation déterminée, là, c'est-à-dire que ton employeur te garantit que « mets de l'argent dans le pot, puis à ta retraite, je vais te donner 20 000 par année, 30 000 par année, 40 000 par année. » S'il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui sont capables de financer ça. Pourquoi? Parce que la business a bien beau bien aller aujourd'hui,
C'est imprévisible pour
surtout,
la suite.
Hein? Les usines, c'est un classique. Ouais. Là, combien d'usines ont fermé? Combien de gens ont vu leur fonds de retraite amputé? Parce que la promesse que l'usine avait faite en 1982 n'est plus capable de la tenir. Fait que là, à part dans le public ou dans le parapublic, là, fait que mettons les universités ou peut-être les banques ou les assureurs, là, ça n'existe plus ces régimes-là. Parce que, vous donnez un exemple, mettons, moi j'ai un client que, ben, une cliente que son mari travaillait chez Hydro-Québec. Dernier jour de travail, là, c'était en 1989. Puis, il est décédé maintenant, mais sa veuve reçoit encore 60 % du fonds de pension, alors que la dernière fois qu'on a punché là-bas, là, chez Hydro-Québec, c'était en 1989.
Tabarnouche.
Ça fait aucun sens d'un point de vue mathématique. Ouais. Fait que Hydro est capable de financer ça. Le gouvernement est capable de financer ça. C'est pas vrai que les shops sur le coin de la rue ou les entreprises privées sont capables de financer ça.
Fait que cette époque-là est pas mal révolue. Ça veut-tu dire, dans le fond, que pour quelqu'un qui écoute, mettons, qui a l'âge à Mathias, ben, faut juste que tu te fies à toi-même pour l'économie puis l'épargne, puis que le plus tôt possible, t'ailles un plan de match par rapport à ça?
Ben, ultimement, t'sais, mettons, on regarde les rentes publiques. Il y en a des fois qui, mettons, on fait des projections de retraite, puis ils regardent le montant de la RRQ en 2050, 2060, puis ils me posent la question, « Hey, ce montant-là, va-tu être là? » Au Québec, là, le régime, il y a de l'argent dans le régime. Là. On pourrait plus mettre une scène là-dedans pendant 58 ans, puis on serait correct. Là. On serait correct pour 58, même 61 ans, je pense, selon la dernière évaluation. Là.
Okay.
Fait qu'il y a de l'argent là-dedans. Mm-hmm. Au fédéral, on a bien beau parler de notre endettement, puis ça reste qu'il y a 10 États sur la planète qui ont des codes de crédit parfaites. Le Canada en fait partie. T'sais, fait que les rentes publiques, moi, ils me stressent pas trop.
Okay.
Tout ce qui est employeur, ben, à moins que ce soit un employeur public, là, un gouvernement, moi, je suis fan de ne pas dépendre en totalité de son fonds de pension. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu encore en fin de semaine dans le journal, ça existe, là, un fonds de pension à prestations déterminées qu'on pensait béton, qui finalement ne l'est plus parce que la situation financière de la... Tu sais, ultimement, j'ai un fonds de pension garanti. Ouais, je comprends. Garanti par quoi? Garanti par la solidité financière de l'employeur. Puis ça, c'est pas vrai qu'on peut regarder 50, 60, 70 ans dans le futur puis dire « Mon employeur, il va être encore dans une bonne situation financière. » Ce monde-là n'existe pas. On pensait qu'il existait. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu puis qui ont fait leur planification financière en prenant pour acquis que c'était vrai, puis finalement, ça ne l'est pas. Fait que pour répondre directement à ta question, moi, je suis fan. Tu sais, ultimement, la liberté financière, là, elle passe par ta propre liquidité. Là. On a bien beau se dire, hey, oui, j'ai une valeur accumulée dans un fonds de pension, j'ai une valeur en immobilier, whatever. Moi, je suis fan de cash. Je suis fan de liquidité. Plus tu priorises ta liquidité, tes placements personnels, plus tu traces toi-même ton chemin vers l'indépendance financière. Fait qu'il y a comme deux avantages à ça. Premier, c'est que tu ne dépends pas nécessairement du fonds de pension de ton employeur ou de peu importe qui pour financer ta retraite. Puis le deuxième, c'est que si jamais toi, ben j'en vois souvent des gens, mettons, au public, qu'ils ont travaillé là 15 ans, 20 ans, ils sont écœurés, ça ne leur tente plus, ils ne sont plus pantoute allumés par leur profession ou leur carrière, mais vu qu'ils n'ont pas fait l'effort d'en mettre de côté par eux-mêmes...
Ils sont poignés là.
Ben prison dorée. Ouais. Ils se retrouvent complètement dépendants du fonds de pension, puis ils se mettent à faire des X sur le calendrier. Fait que si tu as 20, 25, 30 ans, ben tu as le choix aujourd'hui de te mettre ou non dans cette situation-là en fonction du cash que tu mets de côté pour toi et non pas avec un employeur ou n'importe qui d'autre.
Saluer le collègue Mathieu Marcotte qui a payé très cher son billet pour aller au match du Canadien vendredi et qui va prendre la bière à 14$ et qui écoutait peut-être cette chronique.
Écoute, pour le Canadien, là,
c'est pas pareil.
Hein?
C'est pas pareil.
Ouais,
c'est un investissement.
Qu'on soit au Centre Bell, qu'on soit dehors, chaud, pas loin du Centre Bell, qu'on soit d'un restaurant, qu'on soit à la maison, c'est des petits moments de bonheur. On en a tout besoin. Merci, Alex.
Merci à vous autres.
Alex Leblon, planificateur financier à Boulevard 102.1, dans le retour.
T'es-tu traumatisé par ta retraite?
Non. Je n'étais pas en train de compter des affaires dans ma tête. Là.
Gravel, dans le retour.